Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les mercredis, c'est cinéma au programme du Réveil Culturel. Bonjour tout le monde, merci de nous écouter tôt à la radio ou en différé quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Mon invité aujourd'hui est Audrey Diwan. Ce mercredi 24 avril est une journée particulière pour elle puisqu'aujourd'hui sort son premier long métrage en tant que réalisatrice. Mais vous êtes fous, tel est le titre de ce drame contemporain avec Céline Salette et Pio Marmaille dans les rôles principaux, un coup de cœur partagé avec mon camarade partenaire du Figaroscope, Olivier Delcroix, également présent avec nous ce matin.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté. Où la FJ est passé trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Bonjour Audrey Diwan.
Bonjour.
Alors, mais vous êtes fou, renvoie bien, c'est le titre de votre film, hein, premier oui. long-métrage en tant que réalisatrice. Alors, le titre renvoie bien à la chanson de Benny B, de notre folle jeunesse des années 90, mais ce titre peut être trompeur. Comme l'harmonie qui semble être de mise au début du film, quand on fait la connaissance de cette famille modèle d'aujourd'hui, un jeune couple, Pio Marmaille et Céline Salette, avec ses deux filles charmantes. J'ai pas envie de spoiler le film, mais disons que secrètement, le mari, le père, donc le père modèle, a un sérieux problème d'addiction qui va être à l'origine d'un drame familial. Et vous dites que c'est tiré d'un fait divers.
Oui, en fait, l'histoire du film a commencé comme ça, le jour où j'ai fait cette rencontre... Étrange, en fait, une rencontre qui m'a réellement marquée avec la femme dont c'est l'histoire. Je l'ai rencontrée par le biais d'une amie. On s'est retrouvées toutes les deux dans un parc et elle s'est livrée comme peut-être on se livre surtout aux gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, elle était au milieu de ce drame. Une semaine avant, elle avait ce qu'elle appelle elle-même une vie normale. Et puis au moment que je l'ai rencontrée, on lui avait retiré la garde de ses enfants. Toute la famille avait été contaminée, elle avait découvert que son conjoint avait une addiction et elle était à la fois sidérée et en même temps quand elle parlait de cet homme, je sentais et je percevais encore l'amour qu'elle avait pour lui et l'envie de le comprendre. Donc je trouve qu'au confluent de ces deux sentiments-là, il y a quelque chose qui se produisait d'assez fort.
Et vous, quand vous décidez de mettre en scène ce film, qui est votre premier film, Audrey Diwan, c'est beaucoup plus pour raconter une histoire de double vie ou d'un dérapage, pour filmer les addictions aux drogues, pour filmer le manque
Non, pas du tout en fait. Pour moi, l'addiction c'est vraiment une trame de fond. Et en revanche, je vous dis double vie, et oui, j'avais envie que cette drogue agisse un peu et tienne la place d'une maîtresse en quelque sorte. Il sait que résolument cette drogue risque de mettre en péril tout ce qu'il a de plus cher, tout ce qu'il a construit, et en même temps il peut pas s'empêcher d'y retourner un peu comme une pulsion. Et j'avais envie de peut-être de réinterroger la triangulaire amoureuse, vous voyez, et de voir ce qui se produit sur un couple au moment où la confiance se rompt, d'interroger plutôt l'idée du couple aujourd'hui.
Olivier Delcroix, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous avez vu ce film, mais vous êtes fou, donc premier film d'Audrey Diwan.
Oui, alors j'ai vu ce film, j'en ai été assez marqué, presque j'allais dire perturbé, sans doute parce que je m'identifie énormément au héros du film.
Vous avez une addiction que vous cachez à votre femme et à vos enfants, Olivier Delcroix.
Mais
vous osez le dire à la radio de bon matin.
Quel courage,
n'est-ce pas? Non, mais parce qu'effectivement, c'est une vie de couple, c'est un couple et deux enfants en bas âge, et tout d'un coup, tout s'effondre de manière assez tragique. tout s'est fait, tout est fait en sobriété, tout est fait un peu à la manière d'un polar. Je veux dire, il y a pas une once de gras là-dedans. Hein. C'est filmé au cutter. Je me suis complètement identifié. Ça m'a énormément perturbé. Ce film m'a énormément perturbé. Et en même temps, voilà, j'étais au bord des larmes à plusieurs reprises. C'est un film qui m'a marqué, qui m'a touché, qui me travaille. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez sidérant, ce qui se passe.
Elle respire plus.
Romane, elle respire plus. Romane,
tiens-toi pas. Elle est bouillante, appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examen, des analyses de sang, un scanner.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous.
On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme.
Quoi? Mais il y a forcément une erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école?
Je
travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame.
Quoi?
C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux.
Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je vais voir mes enfants!
C'est moi.
C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand?
Des années.
Non!
Il sort aujourd'hui votre film, Audrey Diwan, Mais vous êtes fou. D'ailleurs, ce titre qui renvoie à une chanson, il est assez trompeur. Il appelle à la comédie, à la légèreté, et pourtant, non.
Mais peut-être que c'était un peu ce que je cherchais. J'aime bien, en tout cas, tenter d'échapper aux étiquettes. Et déjà, ce film, en l'écrivant avec Marcia Romano, avec ma co-scénariste, on essayait un peu d'hybrider les genres, vous voyez. C'est-à-dire à la fois de décrire les contours d'un drame amoureux, et puis comme ça, de le laisser être traversé par des notions qui sont plus du genre, du thriller, essayer de faire un thriller intime. Et puis parti dans cette direction-là, je me disais, mais dans ces cas-là, ce serait dommage que le titre enferme le film dans un genre ou dans un autre. Et Mais vous êtes fous, j'avais le sentiment que ça parlait d'eux ensemble, et qu'il y avait une forme d'élan que j'avais envie de transmettre.
Sérieux, monsieur Clémenti?
Je les ai pas drogués.
Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi?
Faut qu'on trouve l'explication, c'est peut-être passé par l'air.
Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari.
Ouais, faut qu'on sépare aussi ça.
Ouais, juste un truc. Tu me crois?
On nous ment depuis des années, non plus j'ai rien vu.
Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles.
Pour nous, c'est comme s'il était mort.
Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner?
Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas.
Comment situeriez-vous le couple de votre film, Audrey Diwan, Mais vous êtes fou?
Alors, c'est marrant que vous me posiez la question, parce que ça a été un vrai point de réflexion. En fait, on a essayé, avec toute l'équipe, puisque ça fait appel au costume, au décor, de montrer ce qu'est la middle class en France. Et c'est intéressant parce que c'est une définition qui semble très claire aux États-Unis, au cinéma. Et en France, c'est beaucoup plus flou. On s'est rendu compte que il y avait assez peu de catégories intermédiaires et que c'était plus difficile de les faire naître dans l'imaginaire. Donc, des gens en difficulté ou des gens très riches. Et que essayer de trouver la middle class, peut-être parce qu'elle est un peu en péril et en disparition aujourd'hui, mais c'était un peu difficile.
Olivier Delcroix?
Oui, ce que je note aussi dans le film, qui est quand même assez court et ce qui est assez remarquable, il est très ramassé, très elliptique, il va à l'essentiel, et en même temps, il y a de temps en temps des envolées, parce que effectivement, Audrey Diwan, elle filme l'amour entre un couple jeune, un homme qui s'est perdu dans une addiction, qui va essayer de remonter la pente, parce que ses deux filles l'attendent au bout du chemin, et en même temps...
Et au risque de se répéter, qu'est-ce qu'il est bon, Pio Barba?
Voilà, il faut quand même le dire. Il tient le film.
Céline Salette aussi. Ouais. Désolé, on l'a déjà dit pour d'autres films, mais ils sont bons, là.
Il est excellent. Et donc, voilà, il y a ces moments d'envolée, comme ça, cette séquence nocturne où, tout d'un coup, on a ces couples, ce couple qui se reforme, évidemment, avec cette espèce d'interdit qui fait tout le sel d'un amour un peu... l'amour tabou, on n'a pas le droit, et pourtant on le fait. Ce qui rend d'autant plus émouvant la façon dont ils se retrouvent. Moi, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup plu. Et puis, il y a cette métaphore étonnante, à un moment donné, prononcée par un juge, l'idée que finalement, un cheveu, C'est comme le tronc d'un arbre, ça garde tout en mémoire. Ouais. Ouh, et là, vous vous dites, ok, vous prenez un cheveu et finalement, on peut tout savoir de votre vie. Ce que vous fumez, ce que vous buvez, ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais aussi d'ailleurs. Et vous vous dites qu'en fait...
Si on a retrouvé les traces de la drogue, voilà, par mégarde ou par... c'était volontaire, mais c'est incroyable.
Et ça, c'est vrai
c'est un film contemporain.
On est complètement dans un film contemporain et tout d'un coup, on bascule dans autre chose. En plus, la vie d'une petite fille est en jeu à un moment donné dans le film. Donc oui, on se dit qu'après on est dans un thriller, il y a une énigme et puis ce suspense, cette musique aussi. Il faut remarquer que la musique est extrêmement bien choisie, elle est parcimonieuse, mais quand elle y est. Là, on sent que les leçons hitchcockiennes ont été retenues. Moi, je vois par exemple cette musique de la fin avec ce montage saccadé qui est extraordinaire, qui nous fait entendre un roulement de tambour avec en dessous des orgues qui en fait impulsent l'idée du sacré et de la façon dont on brise le sacré. Cette musique-là m'accompagne et je me suis dit waouh, ça c'est bien vu, c'est juste.
Voilà,
et je vous remercie.
Et puis cette question sous-jacente dans votre film, est-ce que l'amour est une drogue comme une autre? Parce que on a l'impression qu'elle est amoureuse de son mec pour des raisons qu'elle ne peut même plus expliquer, parce qu'il met en péril sa famille et ses deux filles.
C'est vrai, mais moi je pense que la pulsion amoureuse peut être extrêmement puissante et effectivement agir comme une drogue. Et d'ailleurs, pendant tout le film, je disais aux comédiens que on allait en filigrane parler de manque partout. Lui, il est en manque, et elle entre en manque aussi. Il y a le manque de la peau, il y a le manque du contact de l'autre, il y a comme ça quelque chose qu'elle n'arrive pas à retenir. Et je trouve que la pulsion où qu'elle se place m'intéresse à filmer.
Audrey Diwan, vous êtes arrivée au cinéma par l'écriture. Je rappelle un peu votre parcours. Vous êtes née en 1980, vous êtes d'origine libanaise, mais vous avez commencé d'abord à écrire des enquêtes pour des journaux, puis des livres, puis vous avez été scénariste. Donc l'écriture.
Sous toutes ses formes un peu.
Sous toutes ses formes. Ça a été quoi le déclic pour passer à la réalisation?
C'est la longévité, la pérennité du sujet dans ma tête. En fait, la rencontre avec cette femme date de 2014. Et quelques années plus tard, d'abord, je demandais encore de ses nouvelles. Et ensuite, je sentais que ça résonnait toujours aussi fortement en moi. Et je pense que c'est là qu'on sent une évidence, en fait. Je n'avais pas envie de le partager non plus, ce sujet, alors que j'adore écrire pour d'autres. Mais je sais pas, celui-là, il était à moi.
Culturel. Toufik Hakem.
Avec ce matin Audrey Diwan pour la sortie de son premier long métrage Mais vous êtes fou, et en compagnie d'Olivier Delcroix du Figaro Scope. On ne voit pas Notre-Dame dans votre film et pourtant c'est tourné à Paris, pas très loin.
Vraiment pas loin. On a toute une déambulation à Saint-Michel, on aurait pu voir Notre-Dame. C'est tellement étrange de prononcer cette phrase. D'abord parce que j'ai le sentiment d'en parler comme si elle avait totalement disparu. Et parce que je pense qu'on est tous un peu suspendus à ce suspense. Enfin, moi, j'ai entendu que les fondations, les voûtes, en tout cas, menaçaient encore de s'effondrer. Enfin, qu'il y avait des inquiétudes.
Alors, le numéro spécial du Figaro Scope sort aujourd'hui. Et c'est un spécial Notre-Dame, Olivier Delcroix.
Oui, bien sûr. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on s'attendait pas du tout à tout changer, à tout casser. On a effectivement consacré un dossier spécial à Notre-Dame. Parce que, oui, voilà, c'est le cœur de Paris. C'est le point zéro d'où tout part. Toutes les autoroutes, toutes les routes françaises partent de Notre-Dame. On a vu ces images. Elles ont résonné pendant toute la semaine, et du coup on a eu envie, forcément, parce qu'on est le Figaroscope, parce que c'est notre ADN, parce que Paris c'est aussi ce qui nous fait vivre, on a demandé à tout un tas de gens, et puis on s'est dit bon voilà, Paris au secours de Notre-Dame. Dans notre dossier, on a listé toutes les actions des Parisiens, des habitants de l'île de la Cité, de ceux de l'île Saint-Louis, toutes les actions entreprises, toutes les initiatives pour aider, pour sauver Notre-Dame. Donc il y a évidemment des libraires qui ont lancé des appels, des restaurateurs, des galeristes, des grands chefs aussi, la maison de Victor Hugo qui se mobilise, voilà. Et puis on s'est demandé aussi finalement, que va devenir la maîtrise de Notre-Dame, où vont se produire les organistes, voilà. Enfin, en tout cas, on a demandé aussi à des dessinateurs, parce que j'ai une tendresse profonde pour les dessinateurs de parisiens et de bandes dessinées comme les artistes contemporains, et certains nous ont offert des dessins inédits qu'on a mis en scène et qui sont assez splendides. Je peux parler de François Bouc, je peux parler de Jean-Charles Le Castel-Bajac aussi, voilà. Et puis l'hommage, on a l'hommage d'un grand amoureux de Paris, hein, qui est un habitué du Scope, qui s'appelle Nicolas Destiengorff, qui est l'auteur du dictionnaire amoureux de Paris et qui nous a raconté ça.
Et puis il y a aussi les photos d'hier et d'aujourd'hui qui ont immortalisé Notre-Dame, Doisneau, Cartier-Bresson.
Tout à fait. C'est effectivement une sélection que Valérie Duponchel a faite de manière très intelligente, avec beaucoup de cœur, et son texte est assez sensible. Et voilà, effectivement, en voyant ces quelques photos, on se dit c'est pas possible. Mais le phénix, Notre-Dame est toujours là, est toujours debout, et c'est ce qui aussi est important. Elle renaît de ses cendres, et visiblement elle va renaître vite.
Et Notre-Dame, c'est vraiment Notre-Dame à tous, grâce à Victor Hugo, hein, qui l'a rendue au peuple, à tous les habitants de Paris, à tous ceux qui et celles qui passent à Paris et qui aiment cette ville. La musique du film de Jean Delannoy en 1956, Notre-Dame de Paris, vous l'avez sans doute vu, André Diwan, Olivier Delcroix.
Oui, oui, bah,
je crois Gina Lollobrigida.
Ah, Gina Lollobrigida.
Anthony Quinn. Non, mais le fait qu'il y ait un comédien américain, puis une actrice italienne, ça rappelle à quel point ce bâtiment, cette bâtisse, cette cathédrale appartient à tout le monde. C'était vraiment bien universel, et c'est un des plus beaux films d'ailleurs.
On l'a revu là récemment à la télévision, et j'ai vu à quel point il était encore tout à fait regardable. Enfin, même moi, je me suis complètement laissé embarquer alors que j'avais autre chose à faire. Et Frollo, cette cathédrale qui est traitée en fait à la manière d'un personnage vivant. Notre-Dame est vivante, et Delannoy, je pense, a eu, en tout cas, ça se sent encore maintenant quand un spectateur le revoit. Il a eu le désir de la rendre, de l'anthropomorphiser. Et c'est assez fantastique, ces gargouilles qu'il filme, c'est très très fort. Et c'est vrai qu'il y a peu de films comme ça qui mettent en valeur un bâtiment en l'humanisant de manière aussi évidente, aussi intime.
Mais c'était quand même un bâtiment qui avait plein de visages en fait, donc qui avait en lui-même quelque chose de profondément cinématographique. Je veux dire, la gargouille, c'est une figure est légendaire, donc on rentre dans Notre-Dame, il y a mille histoires.
Comment vous avez réagi au début, quand vous avez appris le sinistre, Audrey Diwan?
Alors écoutez, il se passe quelque chose d'étrange, mais à chaque fois qu'un drame se produit dans ma ville, et je suis profondément parisienne, je n'y suis pas. Donc là, nous étions à Strasbourg avec l'équipe du film, et il y a toujours un moment un peu, j'avais l'impression de ne pas pouvoir communier avec le reste des Parisiens. C'était assez étrange comme sensation. Moi, voilà, je suis d'une culture libanaise maronite et avec mon père, j'ai grandi dans les églises, donc voilà, j'ai un lien assez fort avec la religion et j'ai quand même le sentiment fort de ce lieu de culte. Enfin, vous voyez, qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même un rapport à l'esprit, à la foi. Et en fait, je n'arrive pas du tout à réaliser. Pour vous dire la vérité, je n'y suis pas allée encore. Et j'ai un peu de mal à me figurer cette disparition. Quand même, il y a une disparition...
La flèche, oui.
La flèche. Mmh. La disparition de la flèche, quand je l'ai vue sur... on a vu ça à travers des écrans de téléphone. Moi, je suis en train de vendre un film et j'avais l'impression qu'on était dans une pure fiction, que cette chose-là ne pouvait pas advenir.
C'est un peu de la science-fiction, ouais, c'est vrai. C'est, tout d'un coup, on voit ces images, on se croirait revenu... moi, j'ai eu la sensation de revivre les Twin Towers avec cette espèce de... Non, c'est pas possible, c'est en place, cette fois-ci, c'est chez moi, quoi. Cette fois-ci, c'est à 500 mètres. C'est terrible.
Mais vous ne trouvez pas qu'on est abreuvé d'images 3D, de reconstitutions, de catastrophes créées artificiellement ? Tant et si bien que quand on voit ça et que c'est réel, moi, je mets un temps à me projeter et à me dire, et à vous, mon esprit refuse de croire. C'est étrange.
Depuis, l'émotion est très forte, mais en tout cas, j'ai été très très sensible depuis cette affaire à tous ces témoignages des gens qui viennent des pays qui ont été détruits, que ce soit Palmyre, que ce soit Alep, et vous-même qui êtes d'origine libanaise, vous devez vivre avec ce sentiment quand une bâtisse, quand une ville millénaire s'effondre sous nos yeux.
Là où j'ai tort, c'est-à-dire que moi je l'ai associé dans mon esprit, parce que certainement j'y suis allée enfant et je l'ai associé à la religion, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est absolument ailleurs que ça se joue. Enfin, que cette émotion collective, d'ailleurs qu'on aimerait voir surgir un peu plus fréquemment, naît essentiellement de drames qui réunissent. Enfin, moi je suis toujours un peu sidérée de réaliser à quel point on se sent tous pris dans une émotion commune à l'endroit et au moment du drame, alors qu'on aimerait que cette communion s'effectue ailleurs et autrement aussi, quoi. Mais surtout, c'est comme un sentiment de dépossession. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est sûr d'avoir pour toujours. Et soudain, combien de personnes j'ai entendu dire « je n'ai pas emmené mes enfants voir Notre-Dame » avant. C'est drôle. Comme si c'était un acquis et qu'on ne pouvait pas nous retirer
on
ça.
Revient,
et soudain...
On revient au manque, à la notion de manque. C'est vrai que m'est revenu en mémoire des comme ça, je me suis baladé dans Notre-Dame à plusieurs reprises. Malgré tout, la spiritualité est là, hein, quand on se balade dans Notre-Dame, quand on assiste à un concert à Notre-Dame.
Mais
quand
on entend les orgues, peut-être, non ?
Oui, mais il y a une élévation, il y a une élévation spirituelle, il y a quand même une sorte de foi qui se dit, qui se matérialise.
Oui, mais qui transcende les religions.
Totalement. Oui, totalement. Oui. Mais c'est l'envie de croire en quelque chose. Cette espèce de chose qui tout d'un coup on voit plus haut. On c'est pas quasiment une sensation liée au corps astral. On se détache de nos enveloppes corporelles. Et c'est vrai que c'est souvent ça que j'ai vécu quand je me suis baladé à Notre-Dame. Et c'est pour ça aussi, je pense, que quand on a assisté à ça, quand on a vu ce départ de feu, quand on a vu l'incendie se propager, on n'a pas pu y croire. Et c'est pas pour autant, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Notre-Dame, parce qu'il y a une féminité, il y a une entité comme ça qui est très protectrice, très maternante peut-être. Et c'est tout d'un coup comme si elle disparaissait.
Mais il y a l'idée un peu consternante de la beauté détruite, en fait, où ça se situe.
C'est vrai.
Ouais. Et où que ça se passe, il y a quand même une peine infinie à voir la beauté tomber en cendres. C'est impossible de rester froid face à ce genre de spectacle, non ?
Oui, non, mais l'idée de Notre-Dame debout, moi, c'est quelque chose qui me tient. C'est comme ça que je me lève le matin. C'est pour ça que je voulais faire ce numéro. J'ai déjà envie de la voir renaître. Cette espèce de gang immatérielle et collective, on a été tout d'un coup en deuil. Il y a des gens que j'ai vus, effectivement, quand je m'en suis baladé pas loin après le drame, qui se mettaient à fondre en larmes dans la rue. Le matin, les larmes montaient, et alors qu'en fait, c'est juste un bâtiment. Et pourtant, il nous émeut.
Symboles.
Ben voilà, c'est un symbole, et c'est pas n'importe lequel.
Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ne reviendras-tu donc jamais? Voici le charmant mois de mai. dans le jardin du Luxembourg, les feuilles tombent par centaines, comme ils sont loin, tous les beaux jours. Et moi je cours la prétentaine, parmi les ombres incertaines, qui me rappellent nos amours. Au pied des tours de Notre-Dame, la Seine coule entre les quais. Ah, le gai, le joli muguet, qui n'a pas son petit bouquet.
Merci Olivier Delcroix, merci.
Merci à vous.
Audrey Dumoine, je rappelle que votre film Mais vous êtes fou sort aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut trouver ce numéro spécial Sauver Notre-Dame du Figaroscope. On se retrouve demain. Bonne journée sur France Culture.